Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour. Dimanche dernier, je vous ai lu un extrait du roman de Léonore de Recondo, Le Grand Feu. Je propose aujourd'hui de vous en lire la suite. Depuis plusieurs mois, Antonio lui confie la tâche de recopier ses brouillons. Il aime son écriture, son trait clair et bien lisible. Il regrette que si peu de ses œuvres soient éditées. Il compose beaucoup pour la Pietà, jette tout sur le papier à grande vitesse, il a besoin d'autres mains pour l'aider. Giulietta s'en est chargée un temps, c'est au tour d'Ilaria, en plus du violon. Elle aime cette charge qui lui permet de s'extraire de la collectivité et de s'installer dans la bibliothèque jusque tard le soir. Deux bougies de chaque côté du bureau, l'encrier et les feuilles volantes. À l'aide d'une règle, Ilaria prépare le papier à musique en traçant les portées avec une plume en fer pourvue de 5 pointes espacées. Elle note ensuite, en haut de la page, à quel instrument est destinée cette partie, et elle recopie. Dans le silence de la bibliothèque, elle entend chaque note de la composition d'Antonio. Une voix après l'autre, ça s'échafaude. Une sonate, l'édifice est simple. Une messe avec cœur, la construction complexe apparaît peu à peu. Ilaria entre alors dans l'esprit du compositeur. Elle voit les sentiers qu'il emprunte, les bifurcations, les traverses, les évitements, les évidences qui tissent sa musique. Elle pénètre le labyrinthe de la fabrication. Et ce faisant, elle apprend. Les accords se succèdent, la ligne du violon se dessine, elle la sent sous ses doigts, le mystère se révèle. Pour Antonio, il n'y a pas de mystère, seulement la nécessité d'être aidé. Lui aussi a recopié des pages et des pages de son propre maître. C'est à la table que l'apprentissage se fait. La musique est une suite de notes, un assemblage de chiffrages qu'il faut maîtriser et qui sont les tuteurs de l'émotion. Les robes, plus de robes. Elles aimeraient toutes se différencier en portant de la couleur, d'autres tenues que cette toile rêche informe. Quand des jeunes filles de l'extérieur viennent suivre des cours, elles sont l'objet de toutes les curiosités et jalousies. Prudenza, à son arrivée, aimait l'effet qu'elle produisait. Elle choisissait avec soin ses habits pour être sûre de leur signifier quelque chose. Quoi exactement? Une différence qu'elle ne sait pas nommer? Sa liberté? Quand elle avait compris qu'elle ne faisait que blesser celles qui deviendraient ses amies, elle avait cessé d'ajouter des rubans, des froufrous, des talons, et s'habillait désormais le plus sobrement possible. Les yeux exercés des jeunes filles de la Pietà avaient aussitôt repéré ce changement et accordé à Prudenza une place parmi elles. Ce matin-là, les robes occupent encore les esprits. La prieure a décidé de renouveler la plupart des habits et d'en modifier légèrement la coupe. Elle n'a pas hésité à rappeler aux Tagianotte leurs promesses. Des centaines de mètres de tissu pour des centaines de filles qui utilisaient jusque-là les robes de leurs aînés et limées à force d'usure. Francesca vient en personne. Elle veut voir Ilaria. Elle se souvient de cette fois où sa fille s'était cachée dans la remise, mais le souvenir qui la terrifie est celui du dernier Noël. Ses filles aînées avaient affublé Ilaria d'une robe rose richement brodée. Elles avaient paré de rubans sa chevelure et Ilaria s'était laissée faire en rougissant de leurs attentions. « L'habit fait la famille, croyait-elle. En revêtant ce qui appartient à l'autre, je lui ressemble et lui vole son âme. » Elle en était là, au plus profond de ce rapte émerveillé, l'épiphanie de son rêve, quand ses sœurs, une fois leur œuvre terminée, avaient commencé de lui susurrer à l'oreille « La petite chienne a l'air d'une pute, la petite chienne a l'air d'une pute. » Alors le sang d'Ilaria n'avait fait qu'un tour. Une flamme centrifuge s'était emparée de son esprit, le dévorant en un instant. Le visage empourpré, pleine de colère, elle avait arraché un à un les rubans qui retenaient sa chevelure, tirés sur les lacets de sa robe. Sur le sol gisaient crépons et dentelles, soie et jupons. Les deux sœurs continuaient de se moquer. « La petite chienne a l'air d'une pute. » Hilaria n'avait plus rien dit. Elle était restée prostrée le temps que les heures passent, le temps de rentrer là où elle était à sa place, là où elle n'avait l'air de rien. Francesca n'a pas revu sa fille depuis. Elle s'inquiète de l'accueil qu'elle lui fera. Elle voudrait lui dire dans ce huis clos paisible combien il l'aime. Dans le réfectoire, elles sont 6. 3 pensionnaires, une petite de 8 ans, Hilaria et une jeune femme de 20 ans, avec Francesca, Bianca et la prieure. 3 modèles pour 3 tailles. Francesca a pris plusieurs échantillons de tissu et une grande toile dans laquelle elle pourra découper directement un patron. Les gestes des instrumentistes doivent être plus aisés, lui avait indiqué la prieure. Émue de voir sa fille, Francesca hésite, puis se décide à la serrer dans ses bras. Hilaria reste raide, glacée par l'amour maternel malvenu dans ce réfectoire. La prieure détourne le regard, elle déteste les effusions. L'amour se met toujours en travers de la raison. Elle interrompt l'embrassade. « Allez, allez, commençons !» Parmi les différentes étoffes, la prieure a choisi un fil de lin assez lourd et épais, le plus résistant, lui a assuré Francesca. La petite se place devant elle et Francesca se met à genoux. De son œil expert, elle détaille la morphologie de l'enfant, lui demande gentiment de se tenir bien droite, les bras en croix. La petite s'exécute, ravie d'être tout à coup au centre de l'attention. Elle sourit béatement. Elle aimerait bien, elle, que cette gentille dame la prenne dans ses bras. Elle est si fière de servir de modèle pour toutes les autres filles de son âge. Francesca découpe une encolure un peu plus large que les vêtements précédents et ajoute de l'amplitude à la couture des épaules pour que les musiciennes puissent jouer sans être gênées. Il faut qu'elles aient chaud et soient libres des mouvements de leurs bras. La prieure ne permet aucun autre changement. Pour elle, les jeunes filles ont un cou et des bras, c'est tout. Bianca, Hilaria et la prieure regardent la couturière. Elle va vite, coupe, surfile sur le corps de la petite fille, se lève, prend du recul, s'enquiert de comment elle se sent, explique qu'il y aura un autre essayage avant l'habit définitif. C'est au tour d'Hilaria. Elle enlève sa robe, garde sa tunique légère et sa culotte en forme de pantalon, légère elle aussi. Francesca découvre sa fille, si menue. Elle se revoit adolescente et soudain se demande si Hilaria a déjà ses règles. Elle la regarde maintenant dans les yeux, cet enfant dont elle sait si peu. Sauf son amour, mon amour toujours là, jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Sans aucun doute, il y a tellement de moi en toi. À son tour, Hilaria lève les bras en croix. Elle est fière aussi que son corps soit le modèle de toutes les autres filles de son âge. Elle sent le poids du tissu sur ses épaules. Sourit à Bianca, elle est heureuse entourée de tant de douceur. L'habit s'ébauche, elles le porteront de nombreuses années. Hilaria ne sait pas que Francesca cachera dans les 2 robes qui lui sont destinées un peu de bleu. Ce bleu du début de son amour avec Giacomo, un fin liseré, une présence discrète dans l'ourlet.
Non t'accordi.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Pourquoi ne pas retenir précisément certaines dates? Une date au hasard, pour le simple plaisir du souvenir? Prenons le 16 juin 1714 au matin. Les années précédentes, il n'y avait jamais eu de célébration ou d'événement particulier. Au réfectoire, la prieure se lève et dit à voix haute les prénoms des filles dont c'est l'anniversaire. Pour celles dont on ne connaît pas exactement la date de naissance, on fête le jour de leur entrée dans l'institution. Le 31 mai, il y a un peu plus de 2 semaines, la prieure a prononcé son prénom. 15 ans. Francesca, sa mère, y a-t-elle pensé? Et Giacomo, son père? Au petit matin, en ont-ils parlé? Elle a appris qu'une de ses sœurs s'était fiancée, bientôt une de moins à la maison. Ilaria s'était dit qu'à force, elle se retrouverait seule avec eux à Noël et qu'alors, un jour par an, ils seraient tout à elle, ses parents. Un jour, l'an, elle jouerait à être fille unique, unique en son genre, unique en tout. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Ça ne représente pas grand-chose, sauf cette sortie qui se profile, sauf ce 16 juin qui se lève sur la lagune. Prudenza a été évasive sur ce qui est prévu, mais bien évidemment, elles joueront de la musique. Antonio leur a donné la permission d'interpréter quelques airs de son Ostropicta Armata Spina, pour soprane et instrument, qu'Ilaria recopie au fur et à mesure. Prudenza s'est mise au travail avec sa mère pour ne pas annonner. Plusieurs personnes de la famille viendront les écouter. La musique, comme toujours, est la raison de cette escapade. La traversée jusqu'à l'île de la Giudecca en est l'apogée. La mer a cédé pour une petite traversée, mais pas trop loin. Vous longerez la Giudecca, c'est déjà bien. Et puis, toutes les îles se ressemblent, ma chérie. C'est faux, maman, tu le sais. Prudenza ne peut pas gagner sur tout. Et voici Ilaria qui les attend sur le seuil de la Pietà. Bianca lui a dit « Tu as beaucoup de chance, Tesoro. Remplis-toi les yeux pour moi. » Ilaria a recouvert ses épaules d'une cape légère, rehaussée d'une capuche qui la protège du soleil. Son cœur bat fort, elle part découvrir le monde. La gondole s'approche avec à son bord un gondolier, Prudenza et sa mère. Paolo a désespérément tenté d'y monter. Il a insisté jusqu'à la dernière minute et s'est vu objecter un non catégorique. « Non, nous y allons entre femmes et notre compagnie t'ennuierait, je te connais. Comment m'ennuyer? Je pourrais vous instruire en vous racontant tout ce que je sais sur la Giudecca. Allez, file, je t'ai assez entendu. » Et il avait filé l'estomac noué sous le ruban. « Elle sera là demain, » avait-il dit à Diane avant de se coucher. « Demain, je la vois. » Il était quitte pour une balade perdue, mais une fois qu'elle serait au palais, il la suivrait comme son ombre. Et puis une idée avait germé. Il faudrait en parler à Prudenza et la convaincre qu'elle l'a eue elle-même. Il connaît les trésors d'ingéniosité et de détermination que sa sœur déploie quand elle veut quelque chose. Il aimerait inviter Ilaria quelques jours pendant l'été dans leur résidence de la Terra Ferma chez son frère. Certaines familles patriciennes parviennent à accueillir des maestrés pour des séries de concerts, pourquoi pas eux. La gondole apparaît. Ilaria fait un grand geste de la main, son étui à violon dans l'autre. La prieure a accepté qu'elle ne soit pas chaperonnée. Elle monte dans l'embarcation, salue la mère, s'assoit près de Prudenza. L'atmosphère est étouffante en cette fin de matinée. Sur le canal de San Marco, comme la fois précédente, elle est éblouie par l'activité et l'agitation des bateaux. Le foisonnement au sortir de l'austérité de l'institution, les couleurs. Soudain, tout près, un guitariste qui chante à tue-tête s'écrie en les voyant « Une sérénade pour vous, mesdames !» Les deux jeunes filles l'applaudissent, alors que la mère dit au gondolier d'accélérer la cadence. Bientôt, les yeux d'Ilaria sont absorbés par la basilique San Giorgio Maggiore, son haut campanile, sa façade de marbre qu'elle n'a jamais vue si proche, les deux triangles l'un sur l'autre, les 4 colonnes, les sculptures à chaque angle. Tout l'édifice semble flotter, si léger dans le ciel. « Est-ce que je peux me lever ?»« Oui, si tu te tiens aux épaules de Prudenza. » Les deux pieds bien à plat sur le fond en bois de l'embarcation, le monde maintenant se déplace au gré des coups de rame jusqu'à la pointe de l'île de la Giudecca. Le vent sur son visage, clignant des yeux éblouis par le soleil, Ilaria dévore ce qui s'offre à elle. Quel est le nom de l'église là-bas? C'est l'église del Redentore, construite à la fin de la grande épidémie de peste il y a un peu plus de 100 ans. Ilaria écarquille les yeux, observe tout, les maisons, les quais, la vie de ces gens si libres. Elle voudrait elle aussi courir sur les dalles de pierre, le visage au vent comme maintenant, et puis jeter son violon dans le canal. Elle se fiche de la musique. Soudain, elle sent que le violon la libère et l'enferme à la fois. Tous les rêves sont possibles, ici, devant ses yeux. De nouveau, elle est prise par un désir profond d'avenir, loin de cette terre, au gré d'une migration mystérieuse qui l'amènerait, Dieu sait où. Elle verrait d'autres territoires, d'autres couleurs de peau, d'autres musiques. Et pourquoi ne pas aimer, se dit-elle, pourquoi ne pas aimer à l'autre bout du monde ?
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Je partirai à l'autre bout du monde et je reviendrai couvert de gloire, pense Paolo en l'attendant. Et alors je t'épouserai, Ilaria. Nerveux, il s'entraîne, lit des ouvrages de géographie, écoute son précepteur avec une concentration hasardeuse tant ses émotions l'accaparent, imprévisibles. Dans des éclairs de lucidité, il se demande ce qu'il fuit. Il a le projet secret de partir à Tinos en mer Égée, un des derniers bastions vénitiens de la région. Là, sur cette île balayée par les vents, il s'imagine en conquérant, reprenant aux Ottomans les terres qui appartenaient à la Sérénissime. Il rêve de navires, de mythologie, d'éoles et de Poséidon. Il se voit en Ulysse. Ilaria tissera note et prélude en l'attendant. Il pense à son arrière-grand-père, se dit qu'il veut lui aussi frotter sa réalité au mirage, donner une valeur à sa vie ne passe que par un départ suivi d'un retour glorieux. Alors seulement il pourra vivre ici, dans ce palais, et y trouver sa place. Alors seulement son père, au paradis des Léonies, le regardera avec fierté. Aujourd'hui, quand elles reviendront de la balade en gondole, il leur fera une démonstration de sa dextérité à l'épée. Il offrira à Ilaria les 1000 étincelles de sa lame. Elle verra ainsi son courage et sa ferveur conjuguées. Son amour se mêle aux espoirs de bataille. Il l'écartèle, creusant lui de vastes espaces. À l'autre bout du monde, je ne serai plus cette carapace vide. Mais les voilà. Il entend, depuis la bibliothèque, crier les lourgons de la porte donnant sur le canal. Il devine l'agitation des domestiques. Il va prendre son temps, ne pas apparaître aussitôt. Il ajuste sa veste et sous sa chemise légère caresse du bout du doigt le ruban. Ce lien, l'encerclement de son corps, son maintien. La table est dressée au frais dans la grande entrée. Une longue nappe blanche et brodée, fleurie de bouquets odorants, carafe de vin, friture de poisson. L'heure est à la joie des retrouvailles. Les yeux remplis de lagunes, Ilaria mange avec une sensation de légèreté nouvelle. Paolo est incapable de rien avaler. Il la regarde, ne cesse de se lever. « Mais reste à table !» lui ordonne sa mère. « C'est ta démonstration de tout à l'heure qui te rend nerveux ?»« Ne dis rien, c'est une surprise pour Ilaria. » Elle le regarde, lui sourit. Elle a si rarement des surprises. Paolo, désarçonné, perçoit toute sa beauté, mais aussi qu'elle ne l'aime pas, du moins pas encore. Sa joie est trop candide pour être l'expression d'un sentiment amoureux. À la fin du repas, entre biscuits, compotes, pâtes de fruits et vin doux, Prudenza apporte une petite boîte marquetée. Quand elle l'attend à Ilaria, sa mère ajoute « C'est pour tes 15 ans. Un souvenir de nous et de ce jour, pour toujours. » Dans la petite boîte, un médaillon en or attaché à une chaîne, en son centre un soleil qui darde ses rayons en forme de flamme et au dos, Ilaria, gravé et entouré de deux étoiles. Prudenza dit fièrement « C'est moi qui l'ai dessiné. Les deux étoiles, c'est toi et moi. Et puis, avec ton nom de famille, ce Tadjianotte qui coupe la nuit, le soleil, c'est ce qui te ressemble le plus. » Les larmes montent aux yeux d'Ilaria. Elle n'a jamais rien eu d'aussi précieux. Prudenza lui accroche la médaille autour du cou. Ilaria la caresse entre son pouce et son index, avant de la glisser sur sa peau sous l'encolure de son uniforme. Paolo s'est levé d'un bond. « Mais je n'étais pas au courant !» Sa mère et sa sœur le regardent, ahuris. Son geste est incongru. Il se rassoit en bredouillant. « C'est que moi aussi j'aurais pu... » Sa mère cherche à le sauver de son embarras. « Et si nous allions à présent dans la cour, tu pourrais nous montrer tes passes d'armes ?» On mange une dernière pâte de fruits et on suit le jeune homme. Là, posé sur un banc, une épée et un mousquet ayant appartenu à son père, ainsi qu'un fusil à silex. Ilaria s'intéresse aux différents mécanismes de déclenchement à mèche, les aspects techniques, la précision des tirs, la mort au bout de l'arme à feu, mais l'épée est plus noble. Et Paolo, dans la torpeur de ce milieu d'après-midi, se bat contre un invisible ennemi. Il explique les passes, les exécute lentement, montre la position des jambes, leur importance pour tenir solidement, ne jamais céder, toujours avancer. « Au violon, c'est pareil, » lui dit Ilaria. « Faut avoir les jambes solides, bien ancrées. » Paolo, tétanisé, la regarde avant d'acquiescer. « Oui, sûrement, on fait la même chose, toi et moi, à chacun son arme. » « Oui, » Ilaria l'applaudit. De plus belle, il bondit, fait de grands mouvements d'épée. Paolo est trempé de sueur. Il se fait tard et les invités au concert vont bientôt arriver. Il abandonne les femmes dans la cour pour gravir les escaliers qui mènent à sa chambre et se changer. Il enlève veste et chemise quand Prudenza passe la tête par la porte. « Pourrais-tu nous montrer le fameux livre de Galilée ?» lui dit-elle en se demandant quel est ce tissu rouge qui ceinture l'abdomen de son frère. Vite, il enfile une nouvelle chemise. « Je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer !» Je vous ai lu des extraits du roman de Léonore de Ricondo, Le Grand Feu. Il est édité chez Grasset et vous pouvez le trouver chez tout bon libraire indépendant ou bibliothèque. Lors des pauses musicales, nous avons écouté tout d'abord de Giovanni Benoncini, Barbara Ninfa Ingrata, Laria. Cet enregistrement de 2010 a pour violoniste notamment Léonore de Ricondo elle-même, et comme ténor, Cyril Ovitti. Lors de la deuxième pause musicale, nous avons entendu le motet RV 629 d'Antonio Vivaldi, intitulé « Longe mala umbre terrores », désolé pour l'accent, en français « Arrière, mots, ombres et terreurs », par Europa Galante, dirigé par Fabio Biondi, avec comme contre-ténor David Daniels. Cette émission était produite par Frédéric Guillon. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouveaux extraits de ce roman. Je vous souhaite une agréable soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.